La voix de la crime. Un podcast pour mieux comprendre la jurisprudence de la chambre criminelle. Avec la participation d'Ida Chaffaille et Olivier Violo, conseiller référendaire, et de Guillaume Fradin, directeur du service de communication de la Cour de cassation.
Pour ce deuxième numéro de La voix de la crime, vous avez retenu une décision rendue le 2 mai 2024. Dans cette affaire, la chambre criminelle a considéré que les violences qui sont liées à la prise en charge de l'enfant que deux personnes ont en commun doivent être sanctionnées plus sévèrement car elles ont pour origine la relation de concubinage qui a existé entre l'auteur des faits et la victime. Ce podcast est l'occasion de s'arrêter sur cette circonstance aggravante et de revenir sur ce concept juridique. Mais avant d'entrer dans ce niveau de détail, pouvez-vous décrire à nos auditeurs les faits qui sont à l'origine des poursuites ?
Les faits qui ont amené la chambre criminelle à statuer sont malheureusement fréquents devant les juridictions pénales, puisqu'il s'agit de violences exercées par une personne sur son ancienne concubine, à l'occasion d'un conflit relatif à leur enfant commun. La situation était la suivante. Une jeune femme, récemment séparée de son compagnon, est sortie de son domicile avec leur enfant âgé d'un an qui vivait avec elle. Le père de l'enfant l'attendait et s'est précipité sur la poussette pour y récupérer l'enfant. La mère s'y étant opposée, il l'a tirée par les cheveux et l'a faite tomber. Le mis en cause a ensuite été interpellé, présenté au procureur de la République à l'issue de sa garde à vue et placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son jugement. Il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel sous la qualification de violence, suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacs, c'est-à-dire un pacte civil de solidarité. Cela signifie que le procureur de la République a considéré que les violences avaient été commises en raison des relations de concubinage ayant existé entre l'auteur des faits et la victime.
Vous me permettez d'attirer votre attention sur l'expression « violences commises en raison des relations de couple passé ». Nous y reviendrons et vous verrez que cette précision est importante.
Compte tenu des faits que vous venez de décrire, je vois bien à quoi correspond la qualification juridique de violence. Mais à quoi correspond la notion d'incapacité n'excédant pas 8 jours ?
En droit pénal, le résultat des violences a une incidence sur la répression. Ainsi, plus les conséquences des violences sont graves, plus la peine encourue est sévère. En fonction de l'importance du préjudice physique ou psychologique subi par la victime, les violences peuvent relever des crimes, des délits ou des contraventions, qui sont les 3 grandes catégories d'infractions. Commençons par les faits les plus graves. L'acte violent qui aboutit au décès de la victime est un crime, jugé par une cour d'assises ou une cour criminelle départementale, après que les investigations ont été obligatoirement menées par un juge d'instruction. Dans les autres cas, la gravité des violences sera déterminée en fonction de constatations d'ordre médical. Si la victime subit une mutilation ou une infirmité permanente, ou encore si elle s'est vue prescrire une incapacité totale de travail, retenez cette expression, supérieure à 8 jours, les violences constituent alors un délit. Elles sont punies d'une peine d'emprisonnement et sont jugées par le tribunal correctionnel. Ce concept d'incapacité totale de travail est un terme de médecine légale, dont la durée est appréciée par le juge au regard des éléments dont il dispose, notamment en fonction des mentions du certificat médical de la victime. Dans la mesure où il s'agit d'apprécier l'incidence concrète de faits subis dans la vie quotidienne de la victime, il s'agit d'un concept qui échappe au contrôle de la Cour de cassation. Les juges peuvent donc apprécier souverainement la durée de l'incapacité de travail à la seule condition de ne pas se contredire et de justifier leur raisonnement. C'est ce que la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 27 mars 2019. Enfin, en dessous de ce seuil fixé par le législateur à 8 jours d'incapacité de travail, les violences relèvent de la catégorie des contraventions. Elles sont alors punies d'une peine d'amende et sont en principe jugées par le tribunal de police.
Dans notre cas de figure, Le prévenu, c'est ainsi qu'on appelle les personnes poursuivies devant un tribunal, a admis avoir commis des violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours. En revanche, devant les juges, il a affirmé que s'il avait été violent, c'était uniquement parce qu'il voulait prendre sa fille avec lui. Donc, selon lui, les violences n'ont pas été commises en raison de l'ancienne relation de couple.
Alors, pour résumer, dans notre affaire, les violences étaient reconnues par le prévenu. Le point de savoir si les violences ont été commises en raison ou non de l'ancienne relation de concubinage paraît, dans ce contexte, tout à fait secondaire. En quoi cela faisait-il une différence de retenir ou non cette circonstance ?
Lors de la réforme du Code pénal, entrée en vigueur courant 1994, le législateur a prévu que les violences devaient être plus sévèrement réprimées lorsqu'elles étaient commises par le conjoint ou le concubin de la victime. On parle alors de circonstances aggravantes de l'infraction, notion sur laquelle nous reviendrons plus longuement tout à l'heure. Lorsque le législateur prévoit une telle circonstance, c'est qu'il souhaite lutter plus efficacement contre une forme de délinquance, et donc, pour ce qui nous occupe aujourd'hui, contre les violences conjugales. Par une loi du 4 avril 2006, le législateur a étendu la portée de cette circonstance aggravante en prévoyant qu'elle était également constituée lorsque les faits étaient commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pax, donc après la séparation, et là je vais citer le texte, car la rédaction a toute son importance. Dès lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime. Le texte est celui de l'alinéa 2 de l'article 132-80 du Code pénal. La volonté du législateur était de limiter le champ d'application de la circonstance aggravante. Ainsi, quand des violences ont été commises par l'ancien conjoint ou concubin, la chambre criminelle de la Cour de cassation exige que les juges qui retiennent cette circonstance aggravante expliquent en quoi ces faits ont été commis en raison des relations ayant existé entre l'auteur et la victime. On en trouve des illustrations dans un arrêt, par exemple, de décembre 2020, dernièrement dans un arrêt de juin 2021. Il ne suffit donc pas de constater que l'auteur est l'ex-compagnon pour en déduire l'existence d'une circonstance aggravante. Il faut prouver que l'infraction est liée aux relations antérieures entre l'auteur et la victime.
Les conséquences de l'ajout d'une circonstance aggravante sont importantes. En effet, la peine encourue est aggravée. Dans notre exemple, sans circonstance aggravante, les violences qui ont entraîné une incapacité de travail inférieure à 8 jours sont de nature contraventionnelle. Le prévenu n'encourt qu'une amende. En revanche, l'ajout de cette circonstance aggravante fait encourir au prévenu une peine allant jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. En aggravant la peine encourue, la circonstance a pour effet de changer la nature de l'infraction, qui devient un délit. Les conséquences qui en découlent sont diverses. Ce ne sont plus les mêmes juridictions qui sont compétentes, ni les mêmes règles de prescription qui s'appliquent. Lorsque les violences constituent déjà un délit parce qu'elles ont entraîné une incapacité de travail de plus de 8 jours, l'existence de la circonstance aggravante tenant à l'existence d'une relation de concubinage va durcir la répression, la peine encourue passant à 5 ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. C'est l'article 222-12, sixièmement, du Code pénal qui le prévoit. En outre, en matière correctionnelle, à côté de ces peines de prison et d'amende, qui sont dites principales, d'autres peines, qu'on appelle complémentaires, peuvent être ordonnées. Le fait que la circonstance aggravante prévue à l'article 132-80 du Code pénal soit retenue a pour conséquence, par exemple, de pouvoir condamner l'auteur des violences à une peine de suivi socio-judiciaire comportant une injonction de soins. C'est l'article 222-48-1 du Code pénal qui le prévoit.
L'ajout de cette circonstance aggravante peut également avoir pour effet d'interdire le recours à la procédure de CRPC, c'est-à-dire la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, parfois dite de plaider coupable. Il s'agit d'une procédure simplifiée qui permet à un prévenu qui reconnaît les faits d'être condamné à une peine proposée par le procureur de la République. Cette procédure ne peut cependant être mise en œuvre pour le délit de violence volontaire lorsqu'il est puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à 5 ans. C'est l'article 495-7 du Code de procédure pénale qui le prévoit. Par exemple, comme l'a rappelé récemment la Chambre criminelle dans un arrêt du 30 janvier 2024, si les violences commises sont aggravées par deux circonstances, comme l'état d'ivresse manifeste et le lien de concubinage, la peine encourue est de 7 ans d'emprisonnement, ce qui interdit à son auteur le bénéfice d'une CRPC.
Vous nous avez expliqué que le prévenu a contesté avoir commis les violences en raison de la relation qu'il avait eue avec la mère de l'enfant. Pour résumer l'enjeu de cette contestation, si cette circonstance aggravante était finalement exclue, le prévenu n'aurait été condamné que pour une contravention et non un délit. Or, dans le cas d'un délit, il peut y avoir emprisonnement. Est-ce bien cela ?
Parfaitement.
Pouvez-vous maintenant expliquer à nos auditeurs comment la chambre criminelle a été saisie de ce dossier ?
Les juges du tribunal correctionnel, comme de la cour d'appel, ont condamné le prévenu uniquement pour des violences suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours, à une amende de 500 euros. Le tribunal et la cour d'appel ont considéré que les violences ont été commises par le prévenu au motif qu'il voulait voir son enfant, ce à quoi la mère de celui-ci s'opposait, et non en raison de leur relation passée. Ils ont fait usage de leur pouvoir de requalification des faits dont ils étaient saisis, en abandonnant la circonstance aggravante. Il faut avoir à l'esprit le fait que le juge pénal saisi de la poursuite n'est jamais lié par le choix de la qualification juridique fait par le procureur de la République. La Cour de cassation juge avec constance, par exemple dans un arrêt du 11 mai 2006, qu'il incombe au juge pénal de donner aux faits leur exacte qualification. Ce qui, il faut le dire, rejoint la plupart du temps l'analyse faite par le procureur.
Et c'est le procureur général de la Cour d'appel qui a formé un pourvoi en cassation contre la décision de la Cour d'appel. Le procureur général a, en effet, le devoir de veiller à l'application de la loi pénale sur le ressort de la Cour d'appel où il exerce ses fonctions. C'est ce que prévoit l'article 35 du Code de procédure pénale. Il faut d'ailleurs savoir que les pourvois formés par les parquets généraux des cours d'appel sont bien moins nombreux que ceux formés par les justiciables. Ils représentent moins de 1% des pourvois dont la chambre criminelle est saisie. Ce magistrat, le procureur général, a fait valoir devant la Cour de cassation que la circonstance aggravante dont nous avons parlé est constituée dès lors que les violences ont été commises dans le contexte d'un différend relatif à l'exercice du droit de visite et d'hébergement dont le juge aux affaires familiales avait été saisi. Il peut arriver que des juges interprètent la loi de diverses manières et c'est le rôle de la Cour de cassation de veiller à une application uniforme du droit sur l'ensemble du territoire national pour que le citoyen se voit appliquer la même règle de manière identique, quel que soit le lieu où il est jugé.
Pouvez-vous nous expliquer ce qu'a décidé la Cour de cassation et pourquoi ?
La chambre criminelle a cassé la décision attaquée. Pour la Cour de cassation, dès lors que les faits se rapportent à la prise en charge de l'enfant commun, elle en déduit qu'ils ont été commis en raison de l'ancienne relation de couple désintéressée. En effet, des violences commises en rapport avec la prise en charge de l'enfant commun le sont forcément en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime, puisque l'enfant en est le prolongement.
Cet arrêt rejoint d'ailleurs la position que la chambre criminelle avait déjà exprimée dans un arrêt du 7 avril 2009, par lequel elle avait reproché à une cour d'appel de s'être contredite en écartant la circonstance aggravante dont nous avons parlé, après avoir retenu que les violences avaient été commises à l'occasion de la remise au prévenu des enfants communs du couple, alors que la victime se plaignait du retard dans le paiement de la pension alimentaire.
Nous vous rappelons que vous pouvez vous abonner sur le site internet de la Cour de cassation au podcast de la Chambre criminelle, La Voix de la Crime, mais aussi à la lettre de la Chambre criminelle qui paraît tous les mois. Cela vous permettra d'être notifié immédiatement dès la mise en ligne du contenu. Depuis tout à l'heure, vous avez utilisé à plusieurs reprises le terme de « circonstances aggravantes » et vous venez de nous en expliquer les effets sur la répression. On sait que les violences peuvent être malheureusement commises selon des modalités très variées, par plusieurs personnes, avec une arme, contre un enfant. Est-ce que tous ces éléments sont des circonstances aggravantes ?
Celles que vous venez d'évoquer le sont, en effet. Comme nous avons déjà pu le dire tout à l'heure, et comme la Cour de cassation l'a encore redit dans un arrêt du 30 janvier 2024, il est possible d'ajouter une ou plusieurs circonstances aggravantes à l'infraction poursuivie, pour bien prendre en compte toutes les dimensions des faits reprochés. Ces circonstances aggravantes servent à graduer la répression. On dit qu'elles sont une cause d'aggravation de la répression. Il faut s'arrêter sur ce concept juridique, car il est important en pratique et plus complexe à mettre en œuvre qu'il n'y paraît. Le législateur a créé de multiples circonstances aggravantes. Pour s'en tenir à celles qui s'appliquent aux violences, il en existe aujourd'hui une vingtaine. Parmi celles-ci, on distingue les circonstances aggravantes selon qu'elles sont personnelles ou réelles. C'est un vocabulaire que vous retrouvez dans les décisions de la Cour de cassation. Si la circonstance aggravante se rattache à la personne de l'auteur des faits ou de la victime, on dit qu'elle est personnelle. Par exemple, si la victime est un enfant de moins de 15 ans, on parle de mineur de 15 ans. En revanche, si elle se rapporte aux conditions dans lesquelles l'infraction a été commise, elle est dite réelle. Par exemple, si elle est perpétrée par plusieurs personnes, on dit que les violences sont commises en réunion. Ou encore, si elles sont commises avec usage ou menace d'une arme. L'aggravation est alors liée aux circonstances de l'infraction. L'intérêt de la distinction tient au fait qu'en présence d'une circonstance aggravante réelle, une personne qui serait complice des violences peut se voir reprocher cette circonstance aggravante, tandis que la qualification est plus complexe en présence d'une circonstance aggravante personnelle.
Dans notre exemple, je suppose que la circonstance aggravante liée au fait que l'auteur est l'ancien concubin de la victime est une circonstance aggravante personnelle.
Absolument, car elle se rattache à la personne de l'auteur des faits ou de sa victime. Mais à cette distinction s'en ajoute une deuxième, sur laquelle il faut maintenant s'arrêter. Une circonstance aggravante, qu'elle soit personnelle ou réelle, peut revêtir un caractère objectif ou subjectif, selon qu'elle résulte d'éléments objectivement constatés, comme par exemple l'âge de la victime, ou qu'elle est en lien avec les raisons qui ont conduit l'auteur à agir, comme par exemple la préméditation. Vous comprenez qu'une circonstance aggravante est plus facile à démontrer quand elle présente un caractère objectif. La circonstance dont nous parlons, prévue en des termes généraux à l'article 132-80 du Code pénal et qu'on retrouve dans les mêmes termes à d'autres endroits du Code pénal, a ceci de particulier qu'il s'agit d'une circonstance aggravante personnelle qui illustre ces deux cas de figure. D'abord, elle présente un caractère objectif lorsque les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin actuel de la victime, comme l'a affirmé la Cour de cassation dans un arrêt du 26 octobre 2022. Peu importe le motif des violences, la circonstance aggravante est caractérisée et ne peut être écartée par le juge, par exemple, parce que l'auteur des faits a lui-même été victime de violences domestiques, dès lors que l'auteur et la victime sont dans l'une des relations prévues par le texte et, pour faire simple, ils sont en couple. Au contraire, la circonstance aggravante dont il est question dans l'arrêt du 2 mai 2024 dont nous parlons présentent un caractère subjectif lorsque les faits ont été commis par l'ancien conjoint ou l'ancien concubin en raison des relations ayant existé entre eux. En effet, les juges vont devoir alors examiner les raisons pour lesquelles ces violences ont eu lieu et s'attacher alors aux motivations de leur auteur.
Dans notre affaire, le juge pénal a abandonné la circonstance aggravante des relations de couple existant ou ayant existé entre l'auteur et sa victime. À l'inverse, le juge pénal peut-il décider d'ajouter à une infraction cette circonstance aggravante si le procureur ne l'a pas retenue ?
Si le ministère public n'a pas visé dans l'acte de poursuite une circonstance aggravante, le juge peut toujours la retenir. À condition d'avoir permis au prévenu d'en discuter, bien sûr, mais seulement si la loi le prévoit expressément. Et nous aurions d'ailleurs sûrement dû commencer par ce point. Le juge ne peut en effet ajouter une circonstance aggravante que si l'infraction pour laquelle la personne est jugée le prévoit. Cette règle est l'une des expressions de ce que l'on appelle le principe de l'égalité des délits et des peines, qui impose que toute infraction et les circonstances qui peuvent l'aggraver soient prévues par la loi. Parmi les circonstances aggravantes prévues par le législateur, deux catégories doivent être bien distinguées. En premier lieu, la circonstance aggravante générale, c'est-à-dire celle qui s'applique quelle que soit l'infraction. Par exemple, la récidive est une circonstance aggravante générale. En effet, dès lors que l'auteur des faits, qui a déjà été condamné pour certaines infractions, commet une nouvelle infraction dans un délai prévu par la loi, il est en état de récidive légale, ce qui élève la peine encourue. En second lieu, la catégorie de circonstances aggravantes est dite spéciale, en ce sens qu'elle doit être spécifiquement prévue par le texte réprimant chacune des infractions pour pouvoir être retenue. Par exemple, avant que la loi du 9 juillet 2010 ne le prévoie expressément, la circonstance aggravante mentionnée à l'article 132-80 du Code pénal ne pouvait s'appliquer aux violences contraventionnelles, parce que le législateur n'avait pas expressément prévu qu'elle puisse l'être. C'est ce que la Cour de cassation a souligné dans un arrêt du 2 mai 2018. Ce n'est que si la loi prévoit une telle circonstance aggravante, qu'elle soit générale ou spéciale, que les distinctions dont nous avons précédemment parlé entrent en jeu. D'abord, le caractère personnel ou réel de la circonstance aggravante, c'est-à-dire qu'elle se rattache soit à la personne de l'auteur des faits ou de la victime, soit aux conditions dans lesquelles l'infraction a été commise, puis son caractère objectif ou subjectif entre en jeu, selon qu'elle découle d'éléments objectivement constatés ou des raisons du passage à l'acte.
La circonstance aggravante liée à l'existence d'une relation de couple constitue une très bonne illustration du principe de l'égalité des délits et des peines, puisque le législateur en a réservé l'application à certaines infractions. De ce fait, certaines infractions qui sont pourtant commises à raison de l'existence de la relation de couple entre l'auteur des faits et sa victime, ne sont pas pour autant plus sévèrement réprimées. Par exemple, l'incendie du véhicule d'une ancienne compagne, en raison des relations ayant existé avec l'auteur des faits, ne peut être aggravé par cette circonstance.
Pourtant, vous nous avez expliqué que le fait de retenir la circonstance aggravante liée à l'existence d'une relation de couple permet aussi de faire encourir à l'auteur des faits certaines peines particulières dont l'objet est la protection de la victime. Par conséquent, n'est-ce pas problématique que le législateur n'ait pas prévu d'aggraver toutes les infractions commises dans ce contexte ?
On pourrait en effet penser que lorsqu'un délit fait déjà encourir la peine maximale en raison de sa nature, comme dans l'exemple de la destruction d'un véhicule par incendie, le fait de ne pas pouvoir retenir la circonstance aggravante prévue à l'article 132-80 du Code pénal poserait difficulté, puisqu'elle aurait pour conséquence de ne pas permettre le prononcé de mesures destinées à protéger l'ancienne compagne. Le législateur a identifié cette difficulté et en a tenu compte dans le libellé des textes applicables en la matière. Il faut d'abord bien avoir à l'esprit les enjeux de l'aggravation dont nous venons de parler. Pour reprendre l'exemple de la destruction d'un véhicule par incendie, une telle infraction est un délit puni de la peine de 10 ans d'emprisonnement, peine maximale encourue en la matière. À défaut, l'aggravation de ce délit changerait la nature de cette infraction et en ferait un crime, passible de la Cour criminelle départementale. Il s'agit donc d'un choix du législateur de maintenir cette infraction dans la catégorie des délits jugés par les tribunaux correctionnels. Surtout, la Chambre criminelle a relevé que lorsque le législateur a prévu une mesure protectrice pour la victime, il n'a pas exigé que la circonstance aggravante prévue à l'article 132-80 du Code pénal ait été visée dans les poursuites. Mais il a seulement envisagé l'hypothèse des faits, je cite, commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou après la séparation, en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime. Une telle terminologie permet d'éviter la difficulté que vous venez de soulever et qui découle du choix de ne pas aggraver les délits déjà punis de la peine maximale. Ainsi, dès lors que le contexte des faits poursuivis permet d'établir une telle situation, et même si la circonstance aggravante n'a pas été formellement retenue, le juge pourra prononcer la mesure protectrice pour la victime qu'a prévue le législateur. C'est en tout cas l'analyse qu'en fait la Cour de cassation.
Prenons un exemple, celui du bracelet anti-rapprochement, dont vous avez certainement déjà entendu parler, puisqu'il s'agit de l'un des outils récemment déployés par le législateur pour renforcer l'efficacité des mesures de protection des victimes de violences conjugales. La juridiction peut, en application de l'article 132-45-1 du Code pénal, condamner le prévenu, dans le cadre d'un sursis probatoire, à une interdiction de rapprochement dont le respect peut être assuré par la pose d'un dispositif anti-rapprochement, je cite, en cas d'infraction punie d'au moins 3 ans d'emprisonnement, commise contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacs, y compris lorsqu'ils ne cohabitent pas, ou commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité. La Cour de cassation en déduit qu'il n'est pas nécessaire que la qualité de la victime ou de l'auteur des faits soit visée comme circonstance aggravante par la décision de condamnation pour que cette obligation puisse être prononcée. Donc, un juge d'application des peines ne pourrait refuser le prononcé d'un dispositif anti-rapprochement au seul motif que la juridiction de jugement n'a pas retenu la circonstance aggravante prévue à l'article 132-80 du Code pénal, alors qu'il est établi que les faits ont été commis par le conjoint de la victime. C'est ce que la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 11 mai 2023.
Pour conclure, il faut retenir que les violences intrafamiliales peuvent être aggravées pour un motif purement objectif, lié à l'actualité de la relation de couple, ou pour un motif plus subjectif, établi après une séparation, lorsque les faits ont été commis à raison de cette relation passée. Dès lors que les violences sont en lien avec l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant commun, elles sont nécessairement commises pour cette raison et seront donc toujours aggravées par la circonstance prévue à l'article 132-80 du Code pénal. C'est la fin de ce podcast. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Vous pourrez retrouver un résumé de la décision commentée du 2 mai 2024 dans la lettre de la Chambre criminelle du mois de juin 2024 et lire toutes les références des décisions citées sur le site de la Cour de cassation, rubrique kiosque.
Merci également à l'équipe d'Amicus Radio pour leur soutien technique et leur précieuse assistance.
Nous vous donnons rendez-vous dans quelques semaines pour le prochain podcast de la Chambre criminelle. N'hésitez pas à faire part de vos demandes d'explications de jurisprudence en nous adressant un courriel à lavoiedelacrime.courdecassation@justice.fr. À bientôt.